Bienvenue à tous à l'édition Discussion d'affaires du podcast Hypercroissance. Et comme à chaque épisode de Discussion d'affaires, je suis avec mon bon ami Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Salut Antoine, ça va super bien toi?
Ça va très bien. Je pense, Jonathan, tu as eu des belles nouvelles. Tu étais à la recherche de certaines personnes dans l'organisation et tu as des belles nouvelles qui sont en train de se dérouler de ton côté.
Absolument. Toujours plaisant du côté entrepreneur quand on trouve des bonnes personnes. On avait trois postes clés pour avancer sur la stratégie qu'on a à exécuter devant nous. Et les trois postes présentement sont en lettres pratiquement officialisées là, d'être comblés. Donc, des bonnes nouvelles cette semaine. On est content, l'équipe ici. Puis, ça fait toujours du bien notre petit cœur d'entrepreneur quand il y a des postes qui sont disponibles, qui sont comblés par des joueurs qu'on pense qui vont être des joueurs étoiles. Donc, oui, positif cette semaine, tout à fait.
D'ailleurs, j'en profite, as-tu d'autres postes qui sont ouverts qui pourraient peut-être intéresser notre audience aujourd'hui? On ne sait jamais, des fois, des gens qui sont à la recherche d'un emploi.
Absolument. On a besoin des bons techniciens informatiques, des administrateurs système. On cherche également des développeurs à l'heure actuelle. Donc, on cherche également des postes en marketing également. Donc, automatisation marketing, entre autres. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des skills là-dedans, on a de la place dans l'équipe chez OpenMind, tout à fait. OpenMindT.com comme technologie.com.
C'est un épisode d'emploi. Aujourd'hui, on recherche des gens. Mais non, je pense que c'est toujours bien de parler un peu de nos organisations. Puis d'ailleurs, j'en profite aussi, nous aussi, de notre côté, dans notre groupe chez J7. Présentement, on a plusieurs postes ouverts. Un qui me vient en tête là, spécifiquement, c'est quelqu'un qui est en charge des partenariats stratégiques du développement des affaires, qui va piloter ce département-là parce que, et ça te surprend un petit peu qu'on en avait discuté la dernière fois, Jonathan, nous, chez J7, on n'a pas d'équipe de vente. Et là, on est en train de se dire, peut-être qu'il faudrait en bâtir une. Donc, on cherche quelqu'un qui va pouvoir mener cette équipe de vente-là. Donc, si des gens sont intéressés, allez jeter un petit coup d'œil sur le site de J7 Media. Allez jeter un petit coup d'œil également sur le site d'OpenMind pour en savoir plus. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Mais bon, on ne va pas uniquement parler d'offres d'emploi qui sont ouvertes de chacun de notre côté aujourd'hui. On va revenir à une discussion qu'on était supposé aborder la dernière fois, celle de Peloton, les hauts, les bas de l'organisation qui reste une organisation assez exceptionnelle. Par contre, comme beaucoup d'organisations au niveau technologique, ils ont eu, on va dire, un lendemain de veille difficile en 2022. Et ça a causé plusieurs soucis à l'organisation. Donc, peut-être, Jonathan, tu voudrais donner plus de contexte à l'audience aujourd'hui de ce qui s'est déroulé avec l'entreprise?
Effectivement, c'est vraiment impressionnant. Autant leur montée que leur descente dans les dernières années. Pour mettre en perspective, qu'est-ce que Peloton Interactive, l'entreprise? C'est une compagnie de fitness et une plateforme de fitness qui est sur demande et beaucoup axée sur le sport à la maison. Donc, on peut penser à des tapis d'exercice pour courir. On peut penser également aux vélos stationnaires qu'on peut mettre dans notre maison. Cependant, ils ont développé vraiment un système technologique autour de ça pour être capable de faire ces sports-là en équipe et d'aller chercher un peu plus de motivation que seul sur son tapis roulant à la maison. Et l'entreprise a été fondée en 2012 par 5 cofondateurs, dont le CEO qui est parti de l'entreprise dernièrement, là, Monsieur Foley, qui était l'ancien président de Barnes & Noble, qui est une grande entreprise bien connue aux États-Unis. Et ça leur a pris 3 ans à lever du capital. Ce qu'on voit là comme documentation, ils ont fait au-delà de 400 pitches pour aller chercher des fonds. Ils se sont fait dire non à maintes reprises. Et ils ont réussi, par contre, en 2013, à lever un petit peu de fonds via Kickstarter, 300 000 $ US environ. Et à partir de là, s'est installé un petit peu un culte en arrière de cette entreprise-là. Et il y a eu vraiment une communauté qui s'est ralliée derrière le produit, qui se sont mis à développer. Et c'est là que les investisseurs ont commencé vraiment à venir cogner à leur porte et non l'inverse, là, de toujours se faire dire non. On avance, ils ont commencé à livrer leur premier vélo, leur premier équipement, en 2014. Et là, de 2014 à 2018, l'entreprise grandit. Et en 2018, ils vont chercher 550 millions en dollars de VC, en Venture Capital Funding, pour une valorisation de l'entreprise de 4 milliards. Donc, on part de 2012, ça valait zéro. Et en 2018, avant pandémie, ils sont déjà valorisés par les investisseurs à la hauteur de 4 milliards, ce qui est déjà là en partant, vraiment impressionnant comme chiffre. Ils décident un an plus tard d'aller en bourse. Et ils entrent en bourse à la hauteur de 25 $ US environ l'action. Donc ça, c'est en septembre 2019, avant la COVID. Et retenez bien le chiffre de 25 $. La COVID arrive et ça leur donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent dans les voiles. Ils peuvent surfer cette vague-là où tout le monde cherche le moyen de s'entraîner et de compenser pour le gym qui est fermé un petit peu à l'échelle internationale. Et là, l'entreprise se met vraiment là à pousser en termes de revenus à une rapidité vraiment hallucinante. Et le titre de l'action suit un peu cette vague-là. Le titre de l'action est parti en entrant en bourse à 25 US et a monté au-delà de 171 durant la COVID.
Donc, la valorisation était à combien à ce moment-là?
Au-delà de 50 milliards de dollars US.
Wow!
C'est vraiment impressionnant. Donc, on se rappelle, en 2012, ça valait zéro. Ils ont fait 400 pitchs à des investisseurs. Tout le monde leur a dit, vous êtes fous, il n'y a pas de potentiel là-dedans. Et durant la COVID, l'organisation est valorisée par le marché de la bourse à au-delà de 50 milliards de dollars. Et il y a des ventes qui se font quand même à travers tout ça au bout de la ligne. Ils ont réussi durant la COVID à faire leur premier trimestre au-delà d'un milliard de revenus US dans un trimestre. Là, c'est beaucoup. Là. On part en 2012, zéro revenu. Et en 2021, on fait déjà à peu près là, 3-4 milliards de revenus annuels. Là.
C'est tangible.
Oui, c'est tangible. Il y a des ventes qui sont faites. Et là, juste pour mettre en contexte, leur modèle d'affaires est basé sur deux choses, la vente d'équipements et la vente de forfaits mensuels récurrents, d'abonnements récurrents. Donc, il y a deux types de revenus dans la business. Et là, il se met à avoir problème d'exécution dans la business, problème de livraison du matériel. Il y a eu des rappels sur beaucoup d'équipements. Il y a eu même un événement extrêmement triste où il y a eu la mort d'un enfant, un bébé, par rapport à de l'équipement qui était problématique. Et la dégringolade se met à se faire d'étape en étape par rapport au titre de l'action et par rapport à l'organisation elle-même. Donc, on part de 2021 environ à un pic de 50 milliards de valorisation, au-delà de 170 de l'action jusqu'à aujourd'hui, si on regarde le titre en bourse, 9 l'action, 3 milliards de valorisation US.
Donc, c'est 3 fois moins que la valeur initiale quand ils sont rentrés à la bourse en 2018, c'est ça?
Exactement, exactement. Donc, aujourd'hui même, ils sont beaucoup plus bas que ce que c'était initialement en entrant en bourse. Ils ont quand même des revenus aujourd'hui d'environ 3 milliards de dollars annualisés. Donc, ils sont valorisés à peu près une fois leur volume d'affaires. Mais si on creuse plus loin, dans les 12 derniers mois, ils ont fait 3 milliards à peu près de revenus. On arrondit les chiffres, là. Mais ils ont eu 3 milliards de dollars US de pertes.
Wow.
Donc, ils ont des bons revenus, 3 milliards, mais ils ont fait à peu près 6 milliards de dépenses à travers tout ça, ce qui est assez impressionnant. Et là, dans les derniers mois, ils ont mis au-delà de 5200 personnes à la porte. Le CEO a été obligé de démissionner. Il a même démissionné du board dans les dernières semaines. Le CEO était remplacé par l'ancien chef des finances de Spotify. Et là, on se ramasse aujourd'hui avec une entreprise qui est un grand volume d'affaires, qui est extrêmement déficitaire à chaque trimestre, qui a mis beaucoup, beaucoup de gens dehors. Et là, ça va être impressionnant de voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec ça, parce qu'il y a quand même un revenu qui est là, il y a quand même une valorisation de l'organisation. Est-ce qu'ils vont être capables de rendre ça rentable et d'en faire une business que dans 5-10 ans, finalement, ils vont avoir redressé ça dans la bonne direction? Mais si on regarde dans une courte période de temps, dans moins de 10 ans environ, là, de partir de zéro à énorme business en valorisation, à suivre la vague de descente au niveau de la bourse puis au niveau des valorisations que beaucoup d'autres entreprises ont connu le même sort. À aujourd'hui, on regarde ça, essayer de se stabiliser. Et là, le nouveau CEO a dit que c'était les dernières vagues de remerciements qu'il allait faire. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Vraiment impressionnant comme vague. Puis moi, ce que ça me pose comme question en tant qu'entrepreneur, puis je sais pas si les gens qui nous écoutent ont la même question. Mettre 5200 personnes à la porte, là. Qu'est-ce qu'il faisait tout ce monde-là?
Ah oui, non, effectivement. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/hypercroissance, ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Effectivement, c'est des vraies questions à se poser parce que c'est vrai de se dire, c'est souvent dans des périodes plus complexes que tu te rends compte que ton entreprise n'était pas autant efficace que tu veux. Très souvent, c'est des gens qui avaient peut-être des projets qui étaient orientés sur le très, très long terme de l'organisation, mais on le sait en ce moment, la situation économique fait en sorte que le long terme est un luxe et non une nécessité à tout prix pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Certaines peuvent s'offrir ce luxe, des organisations qui sont à EBITDA positif, qui sont capables de générer des profits. Les organisations qui avaient davantage une vision de croissance, on en a parlé plusieurs fois sur le podcast, n'ont pas nécessairement ce luxe-là en ce moment. Meilleur exemple, c'est ça, c'est de voir un peu qu'il y a une valorisation qui donnait une fois les revenus en ce moment. Pour Peloton, j'ai regardé aussi d'autres organisations. Écoute, juste, bon, tu me connais, là. Moi, je suis dans l'environnement de la publicité Facebook. J'ai pas regardé aujourd'hui, mais si je regarde au moment où on se parle, Meta, tu vois, Meta a une valorisation en ce moment de 342 milliards. OK? 342 milliards. On parle d'une entreprise qui fait environ entre 5 et 10 milliards de profits nets par trimestre. Donc, assumant qu'on l'annualise puis qu'on a 40 milliards de profits nets, 40 milliards, puis tu as une valorisation à 342 milliards, c'est moins que 10 fois les profits. On parle d'une entreprise publique grandement établie. Donc, c'est assez spécial la tendance qu'on voit sur le marché en ce moment où est-ce que, autant qu'il pouvait y avoir des bulles pendant la COVID, où est-ce qu'il y avait des valorisations, qu'on regardait ça, puis c'était du 100 fois les revenus, du 150 fois des fois les profits, des choses vraiment qui n'avaient pas de sens, qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est des entreprises-là qui sont quand même sensiblement établi. Pour longtemps, c'est plus complexe. Ils ont des économies qui sont plus difficiles, mais tout de même, il y a un bel actif. Je pense qu'ils vont être capables de redresser l'organisation. Il y a vraiment un bel actif, puis il y a un brand derrière ça. Peloton, c'est connu. Mais je prends Meta, je reviens ici. Moins de 10 fois les profits. On parle pas des revenus, on parle des profits. Tu vois que c'est des stocks qui m'ont l'air quand même sous-valorisés. Bref, pas un conseiller financier ici, là. Je parle uniquement d'un point de vue consommateur, d'un point de vue entreprise, entrepreneur, là. C'est assez bizarre ce qui se passe dans le marché. Je ne sais pas à quel moment ça va reprendre. Personne ne le sait vraiment, mais on peut observer tout ça et se poser des questions. Hein.
Puis si on regarde pas mal tous les titres technologiques, ont pratiquement effacé tous les gains qu'il y a eu depuis le début de la pandémie, alors qu'il y a quand même effectivement un fondement derrière tout ça, que ces business-là ont généralement quand même avancé. Chose à ne pas négliger là, à l'heure actuelle où ce que le podcast va être broadcasté un peu partout. Il y a un petit choc systémique qui se fait à l'échelle mondiale qui vient du Royaume-Uni. Présentement, il y a des fonds de pension là-bas qui ont créer un crash économique assez impressionnant dans les derniers jours. À surveiller devant nous. Encore là, on n'est pas des spécialistes en économie, mais soyons prudents avec ce qui se passe devant nous parce que ça pourrait impacter nos entreprises si jamais il y a un ralentissement ou il y a un blocage de l'économie mondiale, comme qu'est-ce qu'il y a déjà eu dans les crashs précédents, comme en 2008. Donc, à surveiller, on voit que ça a un impact sur nos placements, on voit que ça a un impact sur ce qu'il y a en bourse, mais cependant, peut-être quelque chose d'autre qui peut toucher nos entreprises ici au Québec. J'asais avec quelqu'un, j'étais dans une mission économique au Vermont la semaine passée, et en jasant avec des gens bien placés en politique là-bas, ce qu'ils voient, entre autres, dans cet état-là, puis ils pensent que ça va être mondial, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient été précipités à la retraite du fait que leur placement était bon, puis ils ont dit « moi, je peux prendre ma retraite », qui sont en train de faire un retour sur le marché du travail.
Oh wow.
Donc, l'hypothèse de cette personne-là est qu'une partie de notre pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle va peut-être être légèrement positivée, je dirais, par le fait qu'il y a des gens qui vont être obligés de revenir sur le marché du travail parce que les placements ont tellement diminué dans les derniers mois que ça sera pas assez pour subvenir jusqu'à la fin des...
C'est pas le temps de décaisser.
Non, exactement. Mais ça peut peut-être avoir un impact sur nos business, entre autres ici au Québec, où ce que ça peut peut-être aider pour la pénurie de main-d'œuvre ou du moins venir mettre un petit peu de baume sur la problématique. Je pense qu'on vit tous dans nos entreprises présentement.
Ouais, clairement, je pense que c'est pas quelque chose qui s'est réglé encore, la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas facile d'avoir des gens de qualité, surtout dans l'environnement de la technologie de l'information que toi et moi on opère. Important de le mentionner. Peut-être un autre point à mentionner. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec notre ami Elon Musk, Jonathan? Il y a eu des changements un petit peu, là, dans toute cette saga entre Elon Musk et Twitter.
Ça bouge, honnêtement. On a encore vu des choses passer assez impressionnantes. Pour ceux qui n'ont pas vu les nouvelles passer, là, Elon Musk a dit finalement, on avance pour faire le deal à la valorisation qu'il avait donnée initialement là, de 44 milliards. Donc, ils ont une date limite, si ma mémoire est bonne, je pense jusqu'au 25 octobre, pour réussir à finaliser cette transaction-là. Sinon, il se doit de passer là, dans son procès. Procès que pas mal tout le monde était d'avis qu'il allait perdre d'une façon ou d'une autre.
Exact.
C'est ton avis, Antoine, là-dessus, sur est-ce que tu penses qu'il était forcé à le faire ou...
Oui, je pense que il le savait. Je pense qu'il savait. Tous les experts qui regardaient un peu cette réalité-là savaient que quand il y avait eu des réalités comme ça un petit peu au Delaware, c'est là que ça allait se passer, hein, ce procès-là. Il était vraiment dans une position qui était défavorable. Elon Musk le savait. Je pense qu'il espérait peut-être aller chercher une manière de sortir de la transaction sans qu'il y ait de procès. Mais du moment qu'il se faisait poursuivre, il savait que là, c'était, je pense, partie terminée. C'est pour cette raison-là qu'il est revenu sur la table des négociations. J'ai lu un très bon article d'ailleurs aujourd'hui à ce sujet que je mettrai encore une fois dans les notes de l'épisode où est-ce que les premières discussions qu'il y a eu entre les avocats de Musk et les avocats de Twitter parlaient d'un rabais d'à peu près 8% sur le montant initial. Donc, je pense que c'était au lieu de 54 $ l'action qui avait été l'offre, l'initial était à 50 $ l'action. Finalement, il y avait des requêtes que les gens chez Twitter faisaient. Elon Musk, lui, a décidé de ne pas accepter de retourner au prix initial. Je pense que il s'est dit, bon, pour quelques milliards, là, les demandes font pas de sens. Donc, moi, je retourne à 54 $ le prix de l'action qui était l'offre initiale pour une valorisation totale de 44 milliards. Mais par contre, ce qui est intéressant à mentionner, et on sait, hein, c'est un peu un gourou du monde des finances, Elon Musk, sans le vouloir, pour les gens qui n'ont pas vu ce qui s'est déroulé l'année dernière avec l'action GameStop, il y a un très, très bon reportage de 3 épisodes qui est sorti sur Netflix qui explique un petit peu ce qui s'est déroulé avec GameStop l'année dernière. Et encore une fois, Elon Musk était l'instigateur, un des principaux instigateurs qui a fait en sorte que le stock de GameStop qui était en train de mourir complètement et qui a été... revigoré par plusieurs investisseurs de Reddit, ben Elon Musk a eu son mot à dire pour que ça monte encore plus vite. Allez voir tout ça, et je dis ça pourquoi? Parce que je fais le parallèle avec Twitter. Quand l'annonce est ressortie que Elon Musk allait finalement réacheter l'action de Twitter, ben l'action a monté. L'action a vraiment monté. Je pense qu'elle a pris comme 12% en une journée. Et à mon avis, peut-être qu'il l'a calculé, parce qu'au moment où on se parle, l'offre initiale, on le dit, était à 44 milliards. L'action de Twitter, au moment où on se parle, là, Jonathan, est à 39 milliards. OK, est à 39 milliards, le stock est un tout petit peu au-dessus de 50 $, peut-être à 50, 51 $. Donc, tu sais, tu vois, il n'est pas tellement loin de l'offre initiale qu'il a fait quand on était capable de voir qu'à la mi-février, même surtout à la mi-juin, l'action traînait, était en bas de 40 $ continuellement. Donc, on peut voir que simplement l'ayant redit, ça l'a donné, on dirait, un petit peu d'espoir aux investisseurs qui ont racheté le stock. Donc, peut-être qu'au final, il va terminer la transaction au prix qu'on est capable de voir présentement dans le marché. Moi, c'est ce que je trouverais fabuleux. C'est s'il s'en sort, pas de procès, bon, peut-être des égratignures, je ne suis pas sûr qu'au final, il voulait sortir de l'argent, mais si on regarde d'un point de vue comptable, il sort, il paye 44, et la valeur de l'organisation à ce moment-là, elle est de 44, elle n'est pas, disons, de 20 milliards. Elle monte. Elle a monté à cause de ce que je viens de mentionner. Ça serait quand même intéressant que ça se termine là, à peu près au même prix que lui avait fait une offre initiale.
Mais deux choses que je me pose comme question derrière de ça. La première, c'est est-ce qu'il aurait pu acheter des actions ou des blocs d'actions pendant que c'était bas aussi? Ça, je ne sais pas s'il y avait le droit légalement, mais moi, si j'avais été à sa place, le temps que ça baisse, tu fais ton plein d'actions, puis là, le restant, tu vas le payer à une valorisation effectivement de 50 $ l'action. Mais probablement ce qui est arrivé en background.
Il y a beaucoup de joutes légales là-dedans, de nuances qui sont mises dans les contrats. Mais effectivement, on pourrait penser comme ça. Mais juste pour moi, le fait de voir que finalement, c'est ça, il va peut-être s'en sortir gagnant parce que toi et moi, on en parlait là, hors podcast, on se disait, il semble sa réputation, tout ça, il va prendre un coup, là, ça sera pas tellement bon pour lui. Finalement, bon, peut-être que c'est une égratignure. Certains investisseurs vont avoir des doutes sur lui prochainement s'il veut refaire des tentatives comme ça. Mais s'il s'en sort et il paye l'entreprise au prix coûtant qu'on est capable de voir dans le marché public en ce moment, c'est pas tellement une mauvaise transaction, là.
Effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'il a probablement fait son emplette de stock à rabais. Et toute la publicité que ça vient de lui donner, encore de sortir partout dans les médias, parlez-en mal, parlez-en bien, mais ça vaut des millions et des millions de publicités qu'il y a eu juste dans cette saga-là, encore une fois.
Et il s'évite un procès. Il s'évite un procès que ça aurait été, c'est ça, dommageable. Et on le sait, lui, il travaille tellement, il a tellement des projets grandioses que je pense que son temps mis dans un procès, bon, il pouvait être mis ailleurs, hein.
Je sais pas si tu as eu la chance de ton côté de voir ça, puis ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller fouiller un peu sur Internet. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages textes qui ont été publiés sur lui qui demandait des avis à plein de monde. Puis c'est drôle de voir les conversations. Je comprends même pas comment ça peut être rendu public comme ça, parce qu'il y a des choses que tu sais, mon Dieu, c'est proche de la vie privée qu'autre chose, là.
Ah oui, ben oui.
Mais à tout le monde à qui parlait, dont Jack Dorsey.
L'ancien fondateur de LinkedIn. Ah oui, non, c'est littéralement, on le voit poser des questions à ses amis. Hey, est-ce que tu t'embarques dans la transaction, Reed? Ah, je vais peut-être mettre un milliard. Mais là, tu regardes les discussions comme ça, c'est tous des milliardaires ensemble qui ont quasiment une conversation WhatsApp en train de se dire, bon, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Bon, là, c'est sûr et certain que je pousse le trait là ici, mais c'est quand même assez fascinant quand je voyais ça. Je me dis, ouais, moi aussi, j'ai des conversations avec mes amis, ben, peut-être pas à la hauteur de certains, de quelques milliards, là, mais bon, au final, c'est comme ça que ça se déroule un peu les discussions autour de cette transaction-là. Là.
Mais c'est fou de voir justement dans sa tête à lui, dans la tête des gens, c'était quoi? Puis on se rend compte qu'il y a des bouts, il n'est pas trop sûr là, de qu'est-ce qu'il va faire avec ça, comment il va le rentabiliser, combien ça vaut. Puis là, il demande un paquet d'avis partout, puis il reçoit des avis contraires. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir un plan si clair que ça. Il s'est levé un matin, clairement. Quatre cafés, let's go.
Ah oui, clairement. On a l'air, là, puis c'est vrai, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. On a l'air de réaliser quand on lit ces différents articles-là que oui, il y a un plan, mais on dirait que...
Il y a du flou.
Exactement. Tu sais, je pense qu'il allait peut-être naviguer à travers tout ça, trouver des solutions lui-même, mais c'est ça, ça partait d'une vision, d'une idée, de quelque chose qu'il voulait changer, puis par la suite, c'était pas super clair. Puis comme de fait, hein, ça a été un petit peu en queue de poisson, tout ce qui s'est fait depuis le départ. J'y vais pas. C'est peut-être aussi de là que c'est parti. Mais bon, on dirait que là, il va y aller, ou du moins, il n'y aura pas le choix d'y aller. Je pense qu'il ne voulait plus le faire. Mais là, il savait très bien qu'il était acculé dos au mur et que le procès allait être néfaste pour sa réputation, pour lui, et qu'il allait le perdre, là. Donc, il est mieux de terminer la transaction. Il va sûrement terminer la transaction au prix de l'action du marché public. Donc, bien joué encore une fois, Elon Musk. On a beaucoup de choses à apprendre de lui continuellement à regarder.
À suivre, je pense qu'il va nous sortir encore quelques lapins de son chapeau dans les prochains mois, c'est sûr et certain.
Ah, c'est clair qu'on va suivre ça de près. Donc, Jonathan, on a fait un petit tour des actualités, des choses qui s'étaient déroulées dans nos organisations, de certaines nouvelles qu'on a vues dans le monde des affaires. As-tu des choses à rajouter avant que je te laisse filer?
C'est complet pour aujourd'hui, Antoine.
Fantastique. Ben, Jonathan, merci encore d'avoir été sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et pour les gens qui nous écoutent, continuez à venir discuter avec nous sur LinkedIn, nous donner des sujets de discussion. On fait ces enregistrements-là, Jonathan et moi, parce qu'on aime parler affaires. On veut partager ces discussions, ces informations-là, ces nouvelles avec le monde des affaires, les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance. Si il y a certains sujets qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Jonathan, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.